consommation et Covid-19, déformation ou transformation. Colloque du Cercle de l'Obsoco. Olivier Badeau, professeur à l'ESCP Europe et à l'Université de Caen, directeur de la chaire E. Leclerc, quel commerce post-Covid ?
Alors, quels impacts possibles de la pandémie sur le commerce ? Je vais vous faire une confidence, puisque j'entends qu'on parle de posture épistémologique, etc. J'ai arrêté d'être structuraliste quand j'ai compris la différence entre l'anthropologie et l'ethnologie. Donc, je suis plutôt de plus en plus sur une posture très scientifique, le doute, la distance, l'hypothétique, et en particulier sur cette question de la pandémie et des impacts possibles, puisque nous sommes en plein dans le cours de cette affaire, donc ça serait extrêmement prétentieux d'apporter des conjectures trop fermes et trop formelles. Alors je vais vous esquisser un travail que nous avons commencé à tracer avec ma collègue Christelle Fournel, qui est la coordinatrice générale de la chaire, qui vous présente ses excuses. Elle participe elle-même à un autre colloque scientifique en province, et qui est un travail qui a été publié en juin 2020, et que nous travaillons, nous continuons à tester, à mettre à l'épreuve, etc. La première question, c'est quel horizon d'analyse ? Au départ, on était parti sur l'idée qu'il y avait un séquençage qui était assez binaire. Il y avait les confinements, il y avait les couvre-feux, etc. Et puis tout ça allait progressivement se diluer avec une disparition progressive de la pandémie du fait des masques, mais aussi des mesures barrières, mais aussi des vaccins, mais aussi des médicaments, voire de l'immunité collective, ferait disparaître la pandémie et surtout ferait disparaître les variables sanitaires qui impactent considérablement, puisque nous, on travaille sur les comportements de l'acheteur et les stratégies des distributeurs. Évidemment, les variables sanitaires impactent considérablement l'ensemble de ces dispositifs. On a imaginé un monde abstrait, hypothétique, post-pandémique. Bon, évidemment, la réalité nous montre le contraire, mais comme nos travaux sont dans du domaine de l'hypothèse, finalement, ça impacte peu leur portée. Donc, je vais vous présenter deux temps. Un premier temps, c'est-à-dire le jeu des 7 hypothèses que nous avions identifiées et comment on les voit progressivement évoluer, et je vais aller vite puisque, en quelque sorte, ça va relativiser assez ce que mes camarades ont déjà présenté. Puis, j'insisterai un peu plus sur 7 défis, voire plus, qui sont associés à ces différentes hypothèses. Les 7 hypothèses que nous avons posées dès 2020, alors ne vous inquiétez pas, elles peuvent être contradictoires, ce qui est le propre, puisque comme nous n'affirmons rien, nous mettons sur la paillasse un certain nombre d'hypothèses et nous les étudions. La première hypothèse post-pandémique, c'est le réenchantement après le désenchantement, structure weberienne bien connue, les gens ont souffert, ils ont été désenchantés avec toute cette affaire, etc., et puis finalement ils vont se lâcher ensuite. Alors on le voit déjà un peu sur les courbes après les confinements. On voit cette espèce de courbe à d'autres chameaux inversés, un peu pointus. Je sais que c'est assez dur à visualiser, d'autant que j'ai pris le parti de venir sans slide pour changer un peu. Donc on voyait bien, notamment le chiffre d'affaires chute complètement parce que les magasins sont fermés, puis ça remonte plus que ce que c'était avant le confinement, etc. Bon. C'est une autre façon de le dire, c'est ce que dit Patrick Baudouin en associant les comportements des consommateurs pendant la pandémie, en imaginant la sortie, en l'associant aux différentes strates de la pyramide de Maslow. On dit voilà, l'entrée dans la pandémie, ça a été la sidération, les gens étaient très étonnés, très inquiets, extrêmement inquiets. Ils se sont réfugiés sur des produits vraiment de base, radicalement de base. C'est tous ces consommateurs qui se jettent sur le papier toilette et autres. Puis ensuite, progressivement, ils s'adaptent, ils remontent dans la pyramide de Maslow en cherchant plus de liens, ce sont les apéros digitaux, le soir aux fenêtres, etc. Et puis progressivement, ils vont sortir et remonter directement vers des produits plus sophistiqués, plus de réalisation de soi et des produits plus projectifs. On voit ça, on a vu ça et on continue à le voir avec des produits comme par exemple le spa gonflable. On avait déjà travaillé dès la première session qu'on a fait dans la chaire sur le quid de la sortie, au moins des confinements. Et on a vu des consommateurs aller consommer des produits vraiment très hédonistes. De gratification. Et puis on voit un effet plus durable, c'est ce qu'on appelle l'effet homard ou coquille Saint-Jacques. Le secteur du poisson était un secteur déclinant, linéairement déclinant, et puis finalement il a pris pas mal de points en termes de chiffre d'affaires, et quand on a regardé ce qu'il y avait derrière cette hausse des chiffres d'affaires, on s'est rendu compte qu'il s'agissait de produits tout à fait inhabituels comme les homards ou les coquilles Saint-Jacques, y compris pour des populations qui ne sont pas habituées à en consommer et à en acheter. C'était ce côté effectivement réenchantement. mécontentement. Deuxième hypothèse, c'est le contraire. C'est une hypothèse dont le terme a été déjà évoqué tout à l'heure, notamment, je crois, par le professeur des Jeux, c'est le retour du borrowing. Alors, le borrowing, c'est un concept qu'on connaît bien, il a été théorisé par Faith Popcorn. Je vous assure que le nom de cette éminente collègue des années 90 n'est pas une blague, et elle avait le fameux Popcorn Report, et elle avait déjà théorisé ce borrowing, c'est-à-dire l'enterrement, les gens s'enterrent chez eux. Les années 90 sont des années de crise, donc on sait des choses. Hein. L'intérêt aussi de regarder à droite et à gauche, c'est fait qu'on a un réservoir, un répertoire de, comme diraient les joueurs d'échecs, de coups déjà joués, et on sait que les années 90 nous ont montré effectivement qu'il y a une corrélation entre les crises environnementales et le fait de s'enterrer chez soi, d'où ce que vous avez évoqué, ce que Philippe a évoqué, le tricot, tout ce qui est jardinerie, etc., ont beaucoup augmenté, que ce soit d'ailleurs en commerce physique ou par Internet. Et concernant le tricot, on avait déjà travaillé sur cette affaire en faisant témoigner Eric Vandendrich dans la chaire, qui est celui qui a racheté pour très peu et qui l'a déjà beaucoup valorisé, Pingouin et Fildar, qui étaient des entreprises qui avaient quasiment disparu. Troisième hypothèse, corrélée à la seconde, la rétractation sur les produits de base et discount. On voit qu'il y a à la fois, c'est à la fois une question, je dirais, en jouant sur les mots, puisque j'ai vu que c'était un peu la tonalité, et j'ai beaucoup aimé la disparition progressive ou la mutation du H dans les différents adjectifs. On était quasiment chez du Pérec, mon cher Benoît, tout à l'heure. Puisqu'on joue sur les mots, c'est valeur et valeur. C'est-à-dire que c'est à la fois cette rétractation sur les produits de base, l'hypothèse conduirait à penser que les consommateurs, pour des raisons de valeur au pluriel, ont réfléchi la vie, la pandémie nous amène à réfléchir, est-ce que finalement cette hyperconsommation est vraiment utile et autre, et il y a peut-être d'autres priorités, et puis c'est valeur au sens économique. Et donc cette troisième hypothèse donnerait une prime à une forte préoccupation sur les prix, parce que préoccupation sur les revenus disponibles, et nous l'avions formulé avant l'affaire de l'inflation qui a été montrée tout à l'heure par mes camarades, qui risque de renforcer cette préoccupation non seulement sur les revenus disponibles, mais aussi sur le pouvoir d'achat. On a tendance à souvent confondre les deux, ce sont deux choses différentes, mais le pouvoir d'achat étant effectivement en fonction de l'évolution des prix, ça peut impacter fortement les comportements des consommateurs, notamment, et les amener vers des acteurs du discount, voire du discount un peu massif des acteurs comme Lidl. Quatrième hypothèse, une forte demande pour les canaux courts et les produits bio. Bon, là, on voit une accélération, on voit dans beaucoup de... Ça a été montré, je ne vais pas revenir, Philippe l'a montré, à la fois sur les canaux courts et sur les produits bio. Je reviendrai tout à l'heure dans les défis sur comment on va fournir des produits bio et comment on va fournir des circuits courts. Dans tous les cas... Là aussi, on voit que la pandémie a donné à réfléchir et peut-être pas créer une rupture, mais une accélération de tendances déjà existantes. L'Obsoco les a montrées depuis longtemps. Cinquième hypothèse, forte croissance du e-commerce et du drive. Alors c'est vrai, ça a été aussi montré, le e-commerce a augmenté, sans doute plus... Pour le drive, il faut faire attention parce que dans le e-commerce, les statistiques nationales comprennent le drive. Et effectivement, je dirais globalement, c'est du e-commerce au sens où la transaction elle est passée sur un outil digital, sur un device digital. Il faut quand même regarder que sur l'ensemble du système économique et sociologique du drive et de la livraison à domicile, on n'est pas tout à fait sur la même chose. C'est pour ça que je vais distinguer le drive, le e-commerce pur avec livraison à domicile sur les produits non alimentaires et sur les produits alimentaires. Ce qu'on semble voir du fait de la pandémie, c'est un accroissement du drive, à peu près plus 40% de chiffre d'affaires en 2020. Donc finalement, c'était un bon compromis. En plus, avec la dimension sanitaire et distancielle, c'est mon hypothèse suivante. On voit une augmentation du e-commerce en non alimentaire. Ça a été dit, Philippe l'a dit, la maison, le bricolage, la décoration, etc. etc. Ça reste moins évident sur la question du e-commerce purement alimentaire avec la livraison à domicile. Il y a eu un effet de biais sans doute parce que les commerçants qui étaient fermés avaient le temps d'organiser ça. On reverra dans les défis, est-ce qu'on va véritablement voir se développer du véritable e-commerce alimentaire, c'est-à-dire de la livraison à domicile, ou est-ce que le drive va rester le meilleur compromis. Sixième hypothèse, je parlais du sans contact, le sanitaire a renforcé l'idée du sans contact et de recourir à des outils de sans contact en magasin. L'ensemble des recherches qui ont été menées avant semblait dire, et je pense notamment aux travaux que mène l'Université de Lille avec le professeur Colin Lachaud, semblait dire que Bah, évidemment, toutes ces bornes et tous ces devices en magasin, etc., c'était en fait peu utilisé. Ça avait été beaucoup développé dans la décennie là, dans laquelle nous sortons. Mais les clients, s'ils venaient en magasin, c'était plutôt pour profiter de l'expérience magasin et des relations clients. Et s'ils utilisaient des devices, c'était plutôt le leur qu'une espèce de magasin à la Star Trek entièrement digitalisé. Nous, on fait l'hypothèse qu'avec la question sanitaire, on pourra peut-être avoir un effet de cliquet, c'est-à-dire de voir que les gens sont habitués, alors d'abord plutôt au paiement sans contact, avoir une distance physique, et peut-être que l'automatisation des points de vente, qui est très présente en Chine, mais qui l'est beaucoup moins dans les pays occidentaux, pour une raison que je vais évoquer dans deux secondes, évidemment, se développera plus. Ça pose quand même, surtout sur les produits de consommation courante, quand même toujours deux limites. La première limite, quand il présidait la chaire, Michel-Édouard Leclerc l'avait symbolisé par Q d'un côté et le compte de résultat de l'autre. Vous savez, Q, c'est le monsieur dans James Bond qui fait tous les gadgets possibles et imaginables. Et il expliquait, il dit, c'est bien beau d'avoir sur l'étagère toutes sortes de gadgets possibles et imaginables qu'on peut appliquer dans le point de vente. La question, c'est comment on le finance. Je prendrai l'exemple de Primark. Il y a un certain nombre de commentateurs qui se sont interrogés de savoir pourquoi Primark n'avait pas développé du e-commerce pendant la pandémie. Et Primark a répondu, vous comprenez bien, nous n'avons déjà pas d'antivol sur les produits parce qu'ils coûtent plus cher que les vêtements que l'on vend. Vous n'imaginez pas qu'en plus, on va développer un système de e-commerce, de livraison à domicile, dont on sait qu'il est très coûteux, le dernier kilomètre, etc. La deuxième limite à cette question d'automatisation extrême, même si c'est pour faciliter les transactions en environnement post-sanitaire, c'est ce qu'on a évoqué, ce que le livre Utopie et consommation montrait, c'est que les représentations et les imaginaires des citoyens, pour ne pas dire des consommateurs, sont quand même plus du côté, on va dire, du naturalisme. On l'a vu avec l'utopie écologique, où l'utopie identitaire est rétractée sur le Philippe parlait zémourienne, moi je dirais pagnolienne, hein, sur le village de Pagnol, on est plus dans cette dimension-là, surtout dans le domaine alimentaire, on voit le succès de Grand Frais par exemple qui a créé cette mythologie, plutôt que sur des magasins avec des robots, des automates, etc. Dernière hypothèse, la gestion des assortiments simplifiés et la mutualisation du risque. Là on est sur une hypothèse qui touche la finance et la gestion de trésorerie principalement. Les confinements et les fermetures des magasins dits non essentiels ont mis sur la table et ont remis sur la table, évidemment de façon cruciale puisque les chiffres d'affaires étaient souvent portés à zéro ou à très, très peu, et je mets de côté les questions d'aide gouvernementale qui évidemment ont pu aider, mais en aucun cas ça ne modifie le raisonnement, la question des décalages de trésorerie des commerçants. Alors, c'est des questions qu'on connaît depuis longtemps. On les a vues apparaître, notamment dans des chaînes ou des indépendants de moindre importance que les grands catégories killers comme H&M, Primark, Zara, etc., avec le fast fashion. Le fast fashion a donné à voir cette question du décalage de trésorerie entre des stocks qu'on reçoit et qu'on n'a pas forcément la capacité de payer. On n'a déjà pas vendu le stock N-1, on a reçu le stock N, il faut payer le stock N+1, et ça a posé problème. Les grands acteurs intégrés ont des systèmes économiques qui ont permis de faire ça, les chaînes ou les indépendants, évidemment, notamment dans le domaine du vêtement, c'est plus compliqué. Et de nouveau, la pandémie a remis sur la table cette question de l'écart entre le besoin en fonds de roulement positif et le besoin en fonds de roulement négatif. L'autre option possible pour mutualiser le risque, etc., ce serait de le mutualiser pas simplement avec les fournisseurs, mais également avec les clients. Et on a vu arriver sur la table quelque chose qu'on connaissait très peu dans le domaine des biens de consommation, à part avec les AMAP, ce système très, très intéressant où vous payez avant pour recevoir des paniers de choux, puis de choux, puis de choux et de choux. Non, je plaisante. Mais c'est ça l'idée, on le connaissait, les abonnements avec le consommateur, on les connaît principalement avec les services, mais peu dans le domaine des biens. Peut-être que ce besoin et cette prise de conscience d'un besoin de mutualiser les risques avec les autres parties prenantes, les fournisseurs ou les bailleurs ou les franchiseurs d'un côté et les consommateurs de l'autre, pourrait peut-être faire émerger, comme on est en train de le voir notamment avec Monoprix et d'autres, des logiques d'abonnement. Pour mieux gérer et pour davantage fluidifier la trésorerie. Alors, dans un second temps, je vais identifier 7 défis qui sont associés à ces hypothèses. Premier défi, organiser la micro-logistique urbaine pour un commerce, effectivement un e-commerce. On a vu, le e-commerce se développe, beaucoup sur les produits non alimentaires. Dans certains secteurs, on est à près de 30% de taux de pénétration. Le drive se développe, le drive piéton se développe. On a en plus tous les commerces de proximité qui de plus en plus deviennent hybrides, hein, la supérette ou le dépanneur qui devient lui-même drive piéton, etc. Tout ça va être compliqué. On va sans doute avoir de la crowd logistique, la logistique participative. C'est tout souvent compliqué à comprendre ce qu'est la crowd logistique parce que ça va beaucoup plus loin que l'ubérisation. Ce sont des modèles d'agence beaucoup plus organiques. Généralement, je donne une image qui parle à tout le monde, c'est la tinderisation de la logistique. Donc ça risque de se développer pour justement rendre le dernier kilomètre moins coûteux et le transférer en partie sur des coûts marginaux liés à des consommateurs comme vous et moi qui en plus deviendraient logisticiens et livreurs. Développement des vélos cargo, des véhicules électriques, etc. Enfin, on risque d'arriver à une très grande anarchie de la micro-logistique urbaine, en plus dans des villes de plus en plus contraintes par des enjeux environnementaux qui sont communs à peu près à toutes les villes. Et donc on peut se poser la question, quel défi pour réaliser ça, à la fois en termes d'organisation, de standardisation et au plan économique, et n'ira-t-on pas vers des sortes de drive urbain, en d'autres termes, une partie du commerce de la ville, du commerce urbain qui sera sans doute désert pour des raisons finalement de transfert de chiffre d'affaires et d'achat sur d'autres types de canaux, peut-être donnera lieu à une organisation, pas simplement de drive par des enseignes, mais par la collectivité. Deuxième défi, l'impact du télétravail, ça a été évoqué. On va suivre ça très près, la chaire en particulier va s'y intéresser vivement, parce que ça risque de modifier la géographie du commerce. On a vu ces dernières années, le commerce allait s'installer sur ce qu'ils l'ont connu, enfin Gérard Demuth appelait la viscosité commerciale, c'est-à-dire coller au flux de consommateurs, dans les gares, dans des zones d'activité professionnelle et autres. Ben, c'est sûr que s'il y a plus de gens qui travaillent chez eux, ça va réorganiser la géographie du commerce et sans doute ça amènera à des péréquations. Donc évidemment, c'est un défi important parce qu'il y a eu de gros investissements qui ont été faits dans tous ces nouveaux lieux du commerce où on a implanté des commerces au plus près des salariés. Évidemment, le fait de télétravailler risque de modifier tout ça. Troisième défi, les approvisionnements réguliers et massifs par des canaux alternatifs. Alors, ça vaut à la fois pour le bio, mais c'est encore plus évident comme défi pour les circuits courts. Bon, on a vu, il y a une demande très forte sur les circuits courts, les gens ont découvert les circuits courts parce que de toute façon, ils étaient contraints géographiquement pendant les confinements. Ça correspond aussi à des valeurs d'évolution de la société, on le sait. Maintenant, où sont les circuits courts? Alors, je vais vous donner juste trois chiffres qui disent des choses quand on regarde les choses au niveau macro-sociologique. L'urbanisation en France, c'est-à-dire sur la ville, la première et deuxième couronne, c'est 81% de la population et ça croît, et ça s'étend. Les agriculteurs, c'est 2% de la population. Les agriculteurs bio, c'est 0,1% de la population. Donc imaginons, et on sait déjà que beaucoup de distributeurs expliquent qu'ils ont à peu près saturé, que ce soit les grands, les réseaux, etc., dans le bio, ils ont à peu près saturé l'approvisionnement et local et international. Où est le bio additionnel, si on a effectivement une accélération du bio, et où, surtout, où sont les circuits courts? Alors je sais bien que certains d'entre nous avons installé des poulaillers sur nos balcons, où élevons quelques abeilles, mais enfin, c'est sans doute pas ça qui va fournir 63 millions de Français. Quatrième défi, la compatibilité des commerçants, notamment urbains, avec les plateformes digitales. Alors on dit, une façon effectivement de fluidifier le e-commerce, notamment sur non pas les produits non alimentaires, mais les produits de tous les jours, les PGC, etc., c'est de plateformiser les commerçants et de plateformiser les petits producteurs locaux. Alors ça a été fait, ça a été pas mal fait pendant la pandémie, notamment parce qu'ils avaient du temps. Ils avaient du temps de mettre leurs produits, leurs offres sur les plateformes, de les actualiser. C'était vital, de toute façon, parce qu'ils ne vendaient plus. Maintenant, nous avons fait soutenir dans cette chaire Anne-Sophie Clément, qui est maintenant docteur. Donc Anne-Sophie Clément, qui a soutenu sa thèse début septembre, qui est disponible, qui sera d'ailleurs sur le site de la chaire. Elle a analysé une soixantaine de plateformes digitales de commerce et de fournisseurs locaux. Donc elle les a passés au tamis, selon toute une série de critères, et je tiens à vous dire que, et là c'était hors pandémie, donc finalement il n'y a pas l'effet pandémique, c'est vital, et en même temps on a du temps. Les résultats sont très compliqués, pour ne pas, c'est une façon litotique de dire qu'ils sont assez négatifs, parce qu'effectivement c'est compliqué, ça coûte cher, il n'y a pas beaucoup d'acteurs, les associations de commerçants ne sont pas forcément les plus à même de s'occuper de ça, les commerçants n'ont pas de temps, donc on sait que En théorie, c'est intéressant. En réalité, c'est un défi important pour les remettre dans des dispositifs qui éviteraient ou qui seraient parallèles au fait que ce soit des grands distributeurs qui eux-mêmes plateformisent, comme c'est en train de se passer, un certain nombre de ces petits acteurs locaux. Cinquième défi, les réseaux sociaux. Il en va de même de ce que je viens de dire avec les plateformes digitales. On a vu pas mal de commerçants qui ne le faisaient pas recourir aux réseaux sociaux pour créer du trafic. Donc on sait que la création de trafic par les réseaux sociaux est une tendance lourde. Mais on sait aussi, et là aussi on l'a beaucoup étudié dans la chaire, que l'étape d'après, c'est le social commerce. C'est-à-dire, c'est pas uniquement le réseau social ne sert plus uniquement à créer du trafic, il va aussi servir à vendre. Les acteurs des réseaux sociaux, et je me souviens de Laurent Soli expliquant ça à demi-mot dès les premiers petits déjeuners de la chaire, il y a déjà 6 ans, ou un peu moins de 6 ans, en disant bah, nous sommes très forts sur l'influence, nous sommes très forts sur la valorisation de l'offre, les réseaux sociaux, il ne nous manque plus que la transaction. Donc la question c'est comment cela va s'organiser et qui seront, est-ce que ces réseaux sociaux, comment ils vont, s'ils prennent la main sur une partie du e-commerce, notamment aux dépens des plateformes de e-commerce, c'est-à-dire comment le commerce, genre, on va dire plus urbain par exemple, puisqu'on parlait de ça, va-t-il s'intégrer dans cette logique ? Sixième défi, c'est, je reviens au e-commerce non alimentaire. Donc, on sait que le e-commerce sur les PGC, sur les produits alimentaires, c'est plutôt le drive. C'est encore compliqué sur la livraison directe, etc., même si c'est en train de s'organiser avec les dark stores, les dark kitchens, la crowd logistique et tout ce qu'on disait. Par contre, on sait que, oui, j'ai presque fini, je vous remercie de me le rappeler, c'est parfait. On sait que le e-commerce en matière non alimentaire, il pénètre bien. On sait aussi que le non alimentaire physique n'est pas attaqué que par le e-commerce non alimentaire, qui, comme l'a rappelé Philippe tout à l'heure, s'est beaucoup développé aussi pendant la pandémie. Il est aussi attaqué par les budgets des ménages, qui ont d'autres contraintes, notamment les dépenses contraintes, l'énergie, etc. Il est aussi attaqué par la seconde main. Au passage, d'ailleurs, l'occasion, la seconde main, c'est pas uniquement les commerçants et les nouveaux acteurs comme Vinted. C'est, comme l'a montré le professeur Guillard à Dauphine, nos propres placards. C'est-à-dire, la seconde main, elle est déjà chez nous. C'est-à-dire, nous débordons. Hein, c'est aussi les papy-boomers, baby-boomers, etc. Nous débordons de produits. Donc ça veut dire que ça, plus toute une série de raisons, fait que le commerce non alimentaire physique, et notamment par l'attaque par le e-commerce qui, lui, fonctionne bien en non alimentaire, ça risque d'être un défi extrêmement important. Et puis, dernier défi, et lui est arrivé, c'est un peu corrélé à ce que je dis sur la gestion de trésorerie tout à l'heure, c'est l'affaire des beaux commerciaux. Et notamment le coût des beaux commerciaux. Quand on fait ce type de travail et qu'on discute et qu'on travaille avec nos collègues britanniques, j'ai fait ça juste avant la pandémie, j'étais à l'université Stirling, nos amis de Stirling qui sont de très grands spécialistes à la fois des questions de stratégie du commerce et de spatialité du commerce, quand on échange, eux expliquent que les défis, ça n'est pas le e-commerce, même pour le non alimentaire, même s'il y a beaucoup d'enseignes qui ont fermé récemment, des grands magasins et autres, leur principal défi, c'est les coûts des loyers commerciaux. Alors, ça a été revu pendant la pandémie, puisque comme un peu tout à l'heure sur la question de la gestion de trésorerie, certains commerçants ne faisant pas de chiffre d'affaires, les non-essentiels, ils ont dit comment vous voulez qu'on paye non seulement nos fournisseurs, mais aussi nos loyers, nos bailleurs, parce qu'en plus on n'a pas de chiffre d'affaires. Mais au passage, d'ailleurs, ont-ils dit, est-ce que ça ne serait pas le moment de repenser la relation entre les bailleurs et, que ce soit les bailleurs institutionnels, familiaux, de centre-ville ou les grandes foncières, et les commerçants, sans doute, on a dépassé des limites, d'autant que c'est une affaire un peu compliquée, puisqu'il n'y a aucun couplage en réalité entre le marché du commerce, c'est-à-dire qu'on peut avoir des magasins ou des secteurs qui faiblissent, et le marché de l'immobilier et du coût de l'immobilier, qui est en grande partie fonction du marché endogène lui-même de l'immobilier et des taux d'intérêt et d'autres éléments exogènes à caractère financier. Et donc on a pensé que pendant la pandémie, ça remettrait là aussi sur la table le débat et que ça ouvrirait peut-être vers des régulations associant mieux ces deux marchés, ces deux contraintes. Pour l'instant, on ne sait pas bien. Enfin, c'est évidemment des choses que nous allons suivre. Je voudrais terminer en disant que j'ai évoqué cette hypothèse, j'ai évoqué cette défi. Il y en a plus. Et il y en a un que je n'ai pas du tout évoqué, qui a été évoqué tout à l'heure, mais sur laquelle aussi nous travaillons, qui est l'impact de la RSE, des contraintes à la fois légales, mais aussi des attentes sociétales du corps social en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale. Nous ne l'avons pas traité dans ce travail, et je vous prie de m'en excuser. Et en conclusion, je voudrais dire que la question a été transformation ou déformation. plus modestement et encore une fois en étant plutôt en train d'étudier des grenouilles sur la paillasse et en les soumettant à quelques tests et en les regardant évoluer de façon longitudinale, nous voyons trois catégories d'effets. Les amours de vacances. Alors l'effet amour de vacances, ça vous, doit vous rappeler des choses, c'est pendant les vacances, c'est très éphémère. On pense que ça va durer toujours, c'est très intense, mais en réalité ça ne dure pas après les vacances. Voilà, il y aura peut-être des choses qui ont pensé que ça durerait pendant du fait de la pandémie, etc., mais qui vont s'évaporer. Deuxième effet, l'accélération. On voit bien, il y a des tendances qui préexistaient et qui s'accélèrent, qui se sont accélérées avec cette pandémie. Et puis troisième effet, des effets de cliquet, des phénomènes qui n'existaient pas ou qui étaient encore très embryonnaires, qui sont véritablement nés pendant la pandémie et qui resteront comme un effet de cliquet après la pandémie. Merci pour votre attention.
Retrouvez toutes les actualités de l'Opsoco sur opsoco.com.